C'est pas un massage qui est facile pour moi, qui a été facile à préparer, je tiens à dire au préambule. C'est un sujet que je trouve délicat, que je vais aborder. Mais j'avais l'impression que c'était ce que je devais faire. Donc, par obéissance, j'espère que vous le recevrez avec beaucoup d'amour. Pouvons-nous, en tant qu'Église, communauté, accueillir la différence dans l'amour, comme on l'a chanté, comme Clément l'a dit au début, d'avoir cet accueil rempli d'amour, comme Christ nous a accueillis. Que ce soit pour nous accueillir mutuellement, accueillir notre Seigneur, bien évidemment, tout premier, mais aussi des personnes qui sont différentes de nous, notamment des personnes avec des attirances homosexuelles, par exemple, une personne transgenre, une prostituée, un drogué, un SDF. Est-ce réellement possible de les accueillir ou est-ce utopique? J'invite sans plus tarder Rose à venir nous faire la lecture de Jean 8, 1 à 11.
Jésus et la femme adultère. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme, surprise, en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ?» Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. »
Merci beaucoup, Rose. Voici un texte que nous connaissons tous fort bien. Je pense que nous pouvons tous, même en réciter une partie par cœur, notamment que celui qui n'a pas de péché lui jette la première pierre. C'est bien connu. Même les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ le citent. Cette phrase nous amène à conclure que seul le juste, celui qui est parfait, a le droit de condamner. La phrase « va et ne pêche plus » conclut que seul le juste parfait peut faire grâce. Mais c'est vraiment ce que le texte nous enseigne. C'est tellement irréaliste et illogique. Imaginons que notre société n'accorde la légitimité pour juger qu'aux seules personnes sans faute, juste et parfaite. Il n'y aurait pas beaucoup de sanctions, vous êtes d'accord avec moi? Prenons la circulation routière. Imaginons que seules les personnes qui n'ont jamais commis d'infraction au code de la route puissent juger. Nous n'aurions très certainement que des juges qui n'ont jamais conduit, et encore. La pensée que Jésus n'accorde la légitimité pour juger et condamner qu'au juge qui n'a jamais péché n'est vraiment pas recevable. Cette position est irréaliste et inconcevable parce que juger fait partie de l'automatisme de l'être humain. Dès qu'une pensée devient consciente, l'homme la juge inconsciemment. Il ne peut s'empêcher de le faire. Chacun d'entre nous le fait et c'est un automatisme. Et heureusement, ce matin, heureusement que j'ai des sœurs en Christ qui m'aiment et qui veulent mon bien. Notamment, deux personnes sont venues m'ont regardé et une personne est venue me voir, je ne veux pas citer la personne, pour me dire « il y a ton jupon qui sort ». Et heureusement que cette personne l'a faite, parce qu'autrement je me serais levée, je serais venue devant vous et je n'aurais même pas réalisé. Donc merci pour votre amour. Dès que nous apercevons une personne, nous jugeons son apparence, son expression, son attitude. Et cela fait instinctivement et intuitivement partie de nous. Collectivement, les lois sont un ensemble de règles édictées pour le bon fonctionnement de la société. Ainsi, il est normal que des mesures correctives et contraignantes soient nécessaires au bon déroulement de la société. Autrement, ça serait le chaos. De tout temps, des mesures ont été régies par la loi des hommes et par la loi de Dieu, comme celle transmise par Moïse. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, des châtiments sont rendus pour diverses transgressions, que ce soit l'adultère, le vol, le blasphème ou le non-respect du sabbat. Jésus-Christ sauve cette femme accusée d'adultère, mais il vient bien au-delà. Il s'expose lui-même à devenir la cible des violences collectives. L'Évangile précise que les scribes et les pharisiens tendaient un piège à Jésus quand ils l'ont amené la femme adultère. Moïse a ordonné « Et toi, que dis-tu ?» Jésus n'est pas dupe. La femme adultère n'est qu'un prétexte pour l'accuser, pour pouvoir le lapider. Pourquoi est-ce que les pharisiens et les scribes amenaient seulement la femme adultère? Vous êtes-vous déjà posé la question? En tout cas, moi, je me suis posé. Je me suis dit, mais ce n'est pas normal. Comment ça se fait qu'il amène seulement la femme? Pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait les deux, l'homme et la femme. On ne peut pas entrer dans un adultère seul. Ce n'est juste pas concevable. Donc, où est l'homme? Qu'en est-il de lui? La loi dont Moïse ordonne la lapidation des adultères, que ce soit l'homme et la femme. Jésus utilise la loi de Moïse pour renverser la situation et disqualifier ses accusateurs. La loi de Moïse interdit de mettre à mort la femme seule, du fait qu'ils sont deux. Jésus irait à l'encontre du précepte de la loi s'il condamnait seulement la femme. Les deux parties doivent être jugées et condamnées. Les accusateurs ont enlevé quelque chose à la loi. Si Jésus l'avait condamné, il aurait alors violé la loi. Et c'est exactement ce que ces accusateurs espéraient. Quelle est la réaction de Jésus? Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Jésus a une réaction qui semble à première vue des plus étranges. En tout cas moi, c'est très certainement pas ce que j'aurais fait. Mais quelle est son intention? Il ne se laisse pas manipuler. Il n'entre pas dans le débat. Il s'abaisse et reste silencieux. Son silence et son abaissement contribuent à l'apaisement de la colère de ses adversaires. Cet abaissement est un appel à l'humilité, un appel à réfléchir. Un appel aux consciences de chacun. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis, il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. En s'abaissant à nouveau, Jésus confronte leur conscience. Il va encore plus loin. D'abord, il a touché leur cerveau, leur pensée, et ensuite, il va toucher leur cœur. L'humilité de Jésus leur permet de réfléchir et d'être touchés au plus profond de leur cœur. Jean 8, 10 à 11. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus sauve la vie de cette femme adultère. Mais pas seulement. Jésus la délivre de ses accusateurs, il la libère de sa propre auto-accusation. Il la libère de sa culpabilité en lui disant « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jésus lui pardonne son péché, mais il y a une condition, un impératif. « Va et ne pêche plus. » Jésus demande un changement de direction. Qu'est-ce que le péché ? Toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu, que ce soit une faute volontaire, consciente ou involontaire, inconsciente. Hata de l'hébreu provient d'un mot qui signifie manquer ou rater le but, ou manquer ou rater la cible. On entend ça assez régulièrement aujourd'hui. Il y a de cela quelques années, j'ai lu un témoignage d'une grande église aux États-Unis qui m'a vraiment beaucoup touchée. Sur la façade de l'église, il était écrit « Jésus t'aime ». Et un jour, voilà l'histoire de deux femmes lesbiennes qui ne vivaient pas ensemble. Elles se sont décidées, on va aller voir si cette église est vraiment une église qui aime. Donc ils se sont décidés à aller dans cette église, dans cette communauté, pour voir si ce qu'ils disent, ils le vivent vraiment. Elles sont rentrées, elles se sont mises tout au fond de la salle, elles ont regardé ce qui se passe. Il n'y a pas eu une réaction. À un moment donné, elles se sont donné la main pour provoquer encore plus les chrétiens, pour voir comment est-ce qu'ils réagiront. Il n'y a eu aucune réaction. Et semaine après semaine, elles sont venues dans l'église. Et semaine après semaine, elles se rapprochaient toujours plus. Elles se disaient, mais on va voir, à un moment donné, ils vont sauter, ils vont faire des bonds, ils vont nous chasser, c'est pas possible. Et rien ne se passait. Les gens leur disaient bonjour et c'est tout. Et un jour, une des deux en avait marre d'entendre parler de Jésus, 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 elle a décidé de ne plus venir. Et l'autre a décidé de continuer parce qu'elle s'est dit, mais c'est tellement, il y a quelque chose, c'est qu'est-ce qui se passe là? Donc elle a continué de venir dans cette communauté. Et un jour, par la grâce de Dieu, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce témoignage m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée et bouleversée. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Dans mes réflexions, je me disais qu'il était possible d'accueillir une personne ou une situation spécifique, notamment un groupe de personnes particulières. Je me disais, ben, en tant que communauté, on pourrait travailler sur nous-mêmes pour se dire, ben, accueillons par exemple des personnes avec des attirances homosexuelles. Mais je me disais, on peut vraiment pas accueillir tous les groupes, c'est juste pas faisable, on peut pas, ça va pas. Je pensais un groupe c'était faisable, mais pas tous. Donc qu'en est-il si un SDF vient, si une prostituée rentre? Et à l'heure actuelle, je dois dire, j'ai cheminé, heureusement, par la grâce de Dieu, et ma réflexion a évolué là-dessus. Et je pense qu'il est actuellement tout à fait possible de sensibiliser une communauté sur l'accueil de toutes les 10 références représentées ici-bas. Accueillir tout le monde, tout et chacun, sans venir avec un regard critique. J'ai travaillé durant plus d'une année et demie à Rue à Cœur à Bienne, dont certains font partie, notamment Francine. Et là-bas, je côtoyais naturellement des toxicomanes, Mais j'imaginais dans la communauté où j'étais, si un dimanche je venais avec lui à l'église, comment est-ce qu'il serait été accueilli? Est-ce qu'il serait été accueilli? Ou est-ce qu'il y aurait eu quand même des regards un peu bizarres de certaines personnes? J'ai aussi eu l'exemple, j'ai fait un stage pastoral à La Chaux-de-Fonds, et le pasteur, c'était à l'Armée du Salut, le pasteur là-bas, il est africain. Et puis, juste à la fin de mon stage, ils avaient justement un culte communautaire avec les autres communautés de la région, donc les catholiques, les réformés, et ainsi de suite. Et c'est lui qui était à l'honneur pour apporter le message. Et il s'est dit, il a apporté un message sur justement accueillir la différence, l'amour et tout, et il s'est dit, je vais venir en SDF. Il m'a montré son costume, il était laborieux, je dois dire franchement. Donc il a mis ce costume le dimanche matin, il est allé avant à l'église, c'était à l'église catholique, il s'est mis devant l'église catholique, il s'est assis par terre, il s'est un peu caché le visage pour qu'on ne le reconnaisse pas. Puis il était là. Et les gens sont passés. Les gens des communautés qui regardaient ailleurs. Les gens de sa communauté qui faisaient la même chose. Il m'a dit, il y a une seule personne qui l'a salué. Et en plus, il y a le responsable de l'église catholique qui venait, qui essaie de lui donner des coups de pied au cul, puis pardon du vocabulaire, mais qui essaie de le taper, puis de lui donner vraiment des coups de pied, en disant, mais pars, t'as rien à faire là, tu nous déranges. Elle lui dit, non, moi j'ai le droit de rester là. Et vraiment, ils essaient de le chasser, parce qu'ils se disaient, mais ça fait moche pour l'église, ça fait moche pour nous. Et il est resté. Finalement, ben, c'est lui qui est rentré, habillé en SDF, et qui a apporté le message. Mais ça pourrait arriver, je pense, dans beaucoup d'églises où ce serait un peu la même chose. D'accueillir la différence, ce n'est pas facile, mais c'est ce que Christ nous demande. Accueillir la différence sans vouloir changer les gens, sans vouloir les rendre comme nous. L'Église évangélique libre de Recombiller est connue pour être une communauté accueillante et je m'en réjouis. Plusieurs personnes qui viennent ici, en tout cas pour la première fois, sont touchées par l'accueil et des personnes restent parmi nous. C'est magnifique, gloire à Dieu. Accueillir la différence. Peut-être me dites-vous, mais c'est une bonne chose, mais ce n'est pas si simple que ça, c'est quand même quelque chose de très difficile. Et si on pense que ce n'est pas possible, peut-être qu'on regarde le problème sous le mauvais angle. Dans nos milieux, nous nous attendons très souvent à ce que la personne change avant qu'elle nous rejoigne. Ou, dès son arrivée dans la communauté, nous lui expliquons tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qu'elle doit changer pour devenir comme nous. Nous allons nous focaliser un bref instant sur les personnes avec les attirances homosexuelles. Dans nos communautés respectives, dans les communautés évangéliques de la Frey, dans les communautés évangéliques en général, nous avons des personnes avec des attirances homosexuelles. Ceci est un fait. Certains d'entre nous sont même mariés avec des enfants et souffrent en cachette. Ceci est également une réalité. Lors de la retraite spirituelle à Widdersville que nous avons eue, les pasteurs, nous nous sommes penchés sur ce sujet, du fait que c'est quand même un sujet important. Nous avions comme oratrice l'épouse d'un pasteur de la Frey qui lutte depuis son adolescence pour l'attirance de la gente féminine. Donc elle nous a vraiment apporté un bon enseignement, vraiment nous a apporté son point de vue, comment est-ce qu'elle voyait ça, comment est-ce que les personnes voient ça du fait qu'elle travaille dans ce sujet, tout spécialement. Et en tant que pastorale, nous avons discuté, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'article qui est sorti dans le dernier Vivre, Si c'est votre cas, vous étiez peut-être choqué de voir cet article de ce pasteur qui disait que, voilà, que être homosexuel n'est pas un péché. Il y a eu un couac qui est passé. Mais en fin de compte, pendant ces retraites, il y a eu vraiment des bonnes discussions qui se sont passées. Il y a eu vraiment des pardons qui ont été demandés, accordés, mais de tous les côtés. Parce que quand cet article est sorti, il y a quand même plusieurs pasteurs qui ont vraiment réagi fortement. Et ça a blessé notamment fortement Philippe Tuller. Et il y a eu des pardons et il y a eu un processus qui s'est fait. Il y a eu vraiment de belles choses qui se sont passées durant cette retraite. Et nous étions unanimes et d'une seule voix, en tout cas tous ceux qui étaient présents, pour dire que vivre son homosexualité est un péché. Penchons-nous un peu sur le péché. Comme nous l'avons vu au début, péché, c'est manquer ou rater la cible. L'orgueil est un péché. Je rate la cible en me situant au-dessus des autres ou des situations. L'avarice est un péché. Je rate la cible en accumulant à outrance ce que je pourrais donner à ceux qui sont dans le besoin. L'envie est un péché. Je rate la cible en voulant m'approprier ce qui n'est pas à moi. La colère est un péché. Je rate la cible en consentant à perdre ma paix intérieure et en m'adonnant à ma colère. La luxure est un péché. Je rate la cible quand je fais de la sexualité une expression de consommation au lieu d'être une communion de tendresse et d'amour avec mon conjoint, votre conjoint en l'occurrence. L'abus de la table est un péché. Je rate la cible quand je mange avec excès, comme tous les abus. Ils doivent être maîtrisés. Et j'en passe. Nous pourrions y passer toute la journée. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 10 à 11 dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble. Ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Dans nos milieux évangéliques, nous pensons souvent que l'homosexualité est bien plus grave qu'un autre péché, ou que le péché de la chair est bien plus sérieux qu'un autre péché. Mais est-ce vraiment vrai? D'autres avancent que tous les péchés sont égaux. Mais est-ce vraiment le cas? Plusieurs passages bibliques affirment une gradation entre les péchés. Voici quelques exemples. Le vol est compensé par une restitution au double des biens dérobés. Ceci se trouve en Exode 22:6. Nous connaissons tous la loi dite du talion, œil pour œil, dent pour dent. Certains péchés sont sanctionnés par la peine capitale, notamment l'idolâtrie, la violence, ou la malédiction envers les parents, l'adultère et d'autres péchés sexuels. Jésus lui-même affirme qu'il y a un degré de gravité entre les péchés. Judas a commis une faute plus grave que Pilate. Matthieu 26, 24 et Luc 22, 22 rapportent cet épisode. C'est une question de bon sens. La colère fait moins de dégâts que l'insulte qui naît de celle-ci. Et s'il y a meurtre, les conséquences sont naturellement bien différentes. Il est primordial d'affirmer que tout péché est condamnable. Il est tout aussi fondamental d'affirmer que Jésus-Christ au calvaire a payé le prix pour tous nos péchés, mais vraiment tous nos péchés. Tite 2, 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple à lui, un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Cependant, il y a une condition essentielle et indispensable au pardon de nos péchés. Celle-ci se trouve en 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Il faut reconnaître son péché pour être pardonné. Sous l'angle de la culpabilité légale, tous les péchés sont égaux. Cependant, les sanctions graduées par la loi, ainsi que l'impact et les conséquences pour soi-même, son entourage et les parties prenantes sont bien différentes. Je répète, tous les péchés sont égaux, vraiment tous, sous l'angle de la culpabilité légale. Mais les différentes sanctions par la loi, l'impact que cela a sur moi-même, sur mon entourage et sur les parties prenantes sont bien différentes. Lorsque nous parlons de personnes avec des attirances homosexuelles, les évangéliques ont tendance à dire la chose suivante. J'aime la personne, le pécheur, mais j'aime pas le péché. Mes amis, cette phrase est à bannir, en tout cas de mon vocabulaire, et j'espère de notre vocabulaire. En disant cela, nous nous séparons du péché. Nous nous mettons au-dessus de la personne et de son péché. Nous sommes supérieurs, notre péché est bien moins grave que le sien. En tout cas, c'est comme ça que les personnes avec des attirances homosexuelles le reçoivent. Nous sommes tous pécheurs. Nous ne pouvons et ne devons pas être le juge des autres, comme si nous étions innocents. Jésus est le chemin entre le normatif et le profane. Jésus est l'ami des pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Je reviens au récit que Rose nous a lu. Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Ensuite, Jésus dit à la femme adultère « Moi non plus, je ne te condamne pas. « Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Jésus lui demande un changement radical, il lui demande de changer de comportement, de ne plus pêcher, ceci est clair. Quelle est la méthodologie de Jésus dans l'acceptance de la différence? Jésus rejoint le pécheur en tout premier, il nous rejoint en tout premier, il l'écoute. Il l'aime, il s'intéresse à lui ou à elle. Il ne veut pas le changer ou la changer, ce n'est pas son but premier. Il veut le rencontrer, il veut avoir une rencontre personnelle avec la personne. Et c'est ça qui change et transforme des vies, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Jésus désire que nous changions. Que nous soyons tous transformés. Si une personne en marge de la société vient dans notre église, comment l'accueillerons-nous? Une prostituée, l'accueillerons-nous? Est-ce que nous la regardions bizarrement? Est-ce que nous oserons l'approcher? Est-ce que la différence nous fera peur? Est-ce que nous voudrons là où le changer absolument? Le rendre ou la rendre plus chrétienne? Ou est-ce que nous serons d'accord en tant que communauté de l'aimer, de l'accepter comme elle est et de l'aider à rencontrer Christ? Changer les gens, c'est le travail de Christ, c'est pas le nôtre, heureusement. La transformation vient de l'intérieur après avoir rencontré ce merveilleux Jésus. Notre mission, c'est de présenter les gens à Jésus, c'est de leur dire qui il est, ce qu'il a fait pour nous, être témoin montrer l'amour qu'il déverse en nous pour que nous puissions à notre tour le leur donner. Souvent, les choses qui nous répulsent le plus sont celles qui nous font peur. Sommes-nous prêts à laisser le Seigneur nous travailler, nous transformer et visiter nos peurs, afin d'être prêts à accueillir Jésus, notre glorieux Jésus, ainsi que notre communauté, chacune et chacun de vous, ainsi que la diversité, les gens qui ne sont pas comme nous, les gens qui nous répulsent, les gens qui nous font peur, les gens où on se dit « Ouh là là, là c'est dangereux ». Est-ce qu'on est prêt à faire ce pas ? Pour finir, je vais prier. Seigneur Jésus, seul toi peux faire l'impossible dans nos vies, dans nos cœurs. Toi seul peux enlever nos peurs. Aide-nous à devenir une église qui est déjà accueillante, une église qui est aimante. Donc merci déjà pour le travail que tu as effectué en nous. Mais merci que nous devenions toujours plus une église qui est apte, capable, qui veut accueillir la différence. Même si cela nous fait un peu peur. Aide-nous à les accueillir comme si c'était toi qu'on accueillait. Comme si c'était toi qu'on mettait en avant, Seigneur. En les mettant en avant, Seigneur, on te met toi en avant. Aide-nous vraiment à pouvoir changer, transformer de l'intérieur, afin d'être capable d'accepter, de prendre la diversité, que ce soit une personne transgenre qui un jour viendra dans notre Église. Parce que les temps difficiles dans lesquels on est, Seigneur, mènent les gens à avoir toujours plus de questionnements. Donc Seigneur, aide-nous à être une Église aimante comme toi tu nous aimes, à pouvoir accueillir comme toi tu nous accueilles, afin que toute la gloire puisse te revenir, parce que tu le mérites, tu es tellement digne de recevoir toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.